Chapitre 52. Ilium, Olympos. Sans comprendre ce qui m'arrive, je fuis Bathier en compagnie des Troyens pour regagner Ilium par l'entrée de service des portes C, son accès principal. Le vent ne cesse de hurler, et l'explosion nucléaire nous a laissés partiellement sourds. Juste avant d'entrer en ville au sein d'une horde de guerriers paniqués, j'ai droit à un dernier aperçu du champignon, cette colonne de cendres et de fumée que les vents dominants commencent déjà à infléchir vers le sud-est. On distingue encore à son sommet les contours du visage de Zeus, mais celui-ci est bientôt déformé jusqu'à en devenir méconnaissable. Plusieurs dizaines de personnes sont piétinées par la foule, si bien qu'Hector ordonne l'ouverture des grandes portes, ce qu'il ne s'est pas vu depuis 9 ans. Des milliers de guerriers s'engouffrent dans l'enceinte. Les Argiens ont fui vers leur nef. Alors même qu'Hector tente de rallier ses troupes terrorisées, j'aperçois Achille qui s'efforce de retenir les siennes. Dans l'Iliade, lorsqu'Achille se déchaîne après la mort de Patrocle, Homère le décrit affrontant une rivière en crue, triomphant de ses flots en les stoppant avec les cadavres de ses ennemis. Mais le voilà impuissant de stopper ce raz-de-marée d'Achéens, car il ne souhaite pas tuer ses hommes par centaines, ce qui serait pour lui la seule solution. Je suis entraîné dans la ville et regrette d'avoir cédé à la panique. J'aurais dû me frayer un chemin jusqu'au sommet de la butte et y rejoindre le petit robot Manmut, qui s'était abrité derrière les rochers surmontant la tombe de Myrine. Ce robot, sous quel terme s'est-il désigné déjà? Ce Moravec, sait-il que Zeus a fait usage d'une arme nucléaire, voire thermonucléaire? Soudain, voilà qu'un souvenir remonte de ma vie antérieure, le énième de la semaine me semble-t-il. Suzanne cherchant à me traîner à une conférence scientifique donnée dans le cadre des échanges interdisciplinaires de l'université. Un nommé Moravec exposant ses théories sur les intelligences artificielles autonomes. Fritz Moravec? Hans Moravec? Je m'étais défilé naturellement. Quel pouvait être l'intérêt de telle théorie pour un lettré comme moi? Enfin, ça n'a plus d'importance maintenant. Comme pour souligner cette remarque, 5 chars font leur apparition au nord. Je sais d'où ils sont partis pour se téculer là-haut, et décrivent des cercles autour de la cité à 3 ou 4 000 pieds d'altitude. Même en réglant mes amplificateurs optiques à la puissance maximale, je ne parviens pas à distinguer ceux qui pilotent ces machines étincelantes, mais il me semble qu'il y a parmi eux des dieux comme des déesses. Et le bombardement commence. Des rayons frappent la cité tels des missiles balistiques en argent massif, et chacun d'eux déclenche une explosion de poussière et de feu, de cris et de gémissements. Ilium est une vaste cité à l'échelle antique, mais ses traits de feu sont vifs. Je les attribue à l'arc d'Apollon, mais je vois que c'est Arès qui le manie comme les chars passent à basse altitude pour évaluer les dégâts. Et tous ces quartiers sont bientôt atteints de plein fouet. Je comprends que non seulement j'ai perdu tout contrôle sur la situation, mais que j'ai aussi perdu de vue mes interlocuteurs les plus importants. Achille se trouve sans doute déjà à 5 kilomètres de là, au milieu de ces hommes paniqués, s'efforçant de les empêcher de lever les voiles. J'entends de nouvelles explosions, conventionnelles plutôt que nucléaires, provenant du campement achéen, et me dit que jamais Achille ne réussira à rassembler ses hommes. Je ne vois plus Hector, lui non plus, et je remarque qu'on a refermé les portes C, comme si cela pouvait arrêter les dieux. Le pauvre Manmut et son ami muet, Orphu, ont sûrement été détruits. Je ne vois pas comment une quelconque créature pourrait survivre à un tel bombardement. Nouvelles explosions sur la place du marché. Des soldats troyens au casque rouge montent en renfort sur les remparts, mais ce n'est pas là qu'est le danger. Le char en or massif fait un nouveau passage, hors de portée des archers, et 5 flèches d'argent tombent ainsi que des missiles Scud. Explosion près du mur sud et du puits principal, en plein sur le palais de Priam. Je repense aux images de la guerre en Irak que retransmettait CNN juste avant que je sois frappé par le cancer. Hector. Le héros est sans doute occupé à rassembler ses hommes. Mais comme ceux-ci ne peuvent rien faire excepté se planquer, peut-être est-il allé retrouver Andromaque dans sa demeure. Je repense à la nurserie déserte et ensanglantée et ne puis réprimer une grimace même au sein de cette fumée, de ce vacarme, de cette rue martyrisée par les bombes. Le couple royal n'a même pas eu le temps d'enterrer son bébé. Mon Dieu, Seigneur, c'est moi qui suis la cause de tout cela? Un char volant fait du rasmot. Une explosion frappe les remparts du mur principal, projetant dans les airs une douzaine de soldats à la cape écarlate. Leurs membres arrachés retombent sur les toits et les pavés en une ondée de chair. Soudain, voilà un autre souvenir, une autre horreur, qui surviendra en ce monde dans 3200 ans, 2001 années après la naissance du Christ. Je vois des corps sauter dans le vide au sein d'un nuage de fumée dont les volutes chassent dans les rues des milliers de victimes terrorisées. Une image qui se superpose à celle des rues d'Ilium devant moi. Seuls diffèrent les bâtiments et les vêtements. Nous sommes incapables d'apprendre. Cela ne changera jamais. Je fonce vers la demeure d'Hector. De nouveaux missiles pulvérisent la placette que je viens de quitter. Je vois un enfant sortir en chancelant d'un tas de gravats qui était naguère une maison de 2 étages. Je ne saurais dire si c'est un petit garçon ou une petite fille, mais son visage est un masque de sang, ses cheveux une coiffe de plâtre. Je fais halte et me penche vers lui pour le prendre dans mes bras. Il en est où? Il n'y a pas d'hôpital à Ilium. Mais une femme portant un foulard rouge sur la tête le saisit et s'enfuit. J'essuie la sueur qui me coule dans les yeux et continue de me diriger vers la maison d'Hector. Elle a disparu. La totalité du palais d'Hector a disparu. Il n'en reste plus que des pierres éparses et des cratères dans le sol. Je ne cesse d'éponger mon front, et même lorsque j'arrive à voir quelque chose, je ne peux y croire. Le quartier tout entier a été pilonné par les missiles. Les soldats troyens s'affairent déjà à fouiller les ruines avec des lances et des pelles de fortune, leurs fiers casques rouges grisaillés par la poussière.
« Oakenberry !» dit une voix.
Je me rends compte que quelqu'un qui prononçait mon nom depuis un bout de temps a fini par se résoudre à me tirer par la manche.
« Oakenberry !»
Je me retourne, bas des cils pour chasser la sueur de mes yeux et découvre Hélène. Son visage est couvert de poussière, sa robe maculée de sang, ses cheveux tout décoiffés. Jamais je n'ai vu de femme aussi belle. Elle se jette sur moi et je la serre entre mes bras. Elle s'écarte.
« Es-tu grièvement blessé, Oakenberry ?»«
Hein ? » ?»«
Tes blessures sont-elles graves ?»«
Je ne suis pas blessé, » dis-je. Elle porte alors une main à mon visage, la retire rouge de sang. Je m'effleure la tente des doigts, j'y trouve une plaie ouverte, une autre à la naissance de mes cheveux, et comprends en les voyant rougis que ce n'était pas de la sueur qui me coulait dans les yeux. « Ça ira, » dis-je, puis je désigne les ruines fumantes. « Hector ?»« Andromaque ?»«
Ils n'étaient pas chez eux, Oakenberry !»
répond Hélène, élevant la voix au sein du vacarme.
« Hector a envoyé les siens dans le temple d'Athénée. Ils ne risquent rien en restant au sous-sol. »
Je distingue le toit du temple en question à travers la fumée. « Évidemment, songeai-je, les dieux ne vont pas bombarder leur propre temple. Quelle bande d'égotistes !»«
Théano est morte !» reprend Hélène. « Écube aussi. Et Laodis !»
Je répète stupidement ces trois noms. La déesse d'Athénée, la femme qui m'avait caressé les couilles avec sa dague, et la femme et la fille de Priam. Trois de mes amies troyennes, mortes. Et les hostilités ne font que commencer. Soudain, je me retourne, pris de panique. Le bruit est anormal. Les explosions ont cessé. Dans les rues, des hommes et des femmes pointent le ciel du doigt en poussant des cris. 4 des 5 chars se sont déjà éclipsés et le 5e, celui d'Arès, je crois bien, file vers le nord et disparaît soudain, se téléportant à Olympos. Tant de dégâts. Je considère les bâtiments effondrés, les cratères fumants, les corps sanguinolents. Tout ça à cause de quelques dieux dont l'un n'est armé que d'un arc et de flèches. Quelle est la suite du programme? La guerre biologique? Le dieu à l'arc d'argent, sans doute en train de se remettre dans une cuve de soins, est connu pour répandre la peste parmi le genre humain. J'agrippe le médaillon passé à mon cou. « Où est Hector ?» demandai-je à Hélène. « Je dois retrouver Hector !»
Il est ressorti par les portes C en compagnie de Paris, d'Aînée et de son frère Déiphobe. Il dit qu'il doit parler à Achille avant que tous les cœurs soient affligés.
« Je dois le retrouver !» répétai-je. Je me tourne vers la sortie principale, mais Hélène me saisit par le bras pour m'obliger à lui faire face.
« Oakenberry !» dit-elle.
Elle attire mon visage vers le sien et m'embrasse. En plein milieu de la rue où règne cri et panique. Lorsque ses lèvres se détachent des miennes, je la regarde stupidement, toujours penchée vers elle.
« Oakenberry !»
répète-t-elle.
« Si tu dois mourir, que ce soit avec courage !»
Puis elle fait demi-tour et s'éloigne sans se retourner une seule fois.